Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole depuis 2001, membre du Parti Socialiste puis de Fédération Progressiste, un parti que vous présidez depuis mai 2022. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2024.
Moi aussi, je vous présente, il est encore possible de le faire, à vous, à toute l'équipe de Cassis FM et puis à tous les auditeurs. Une belle et bonne année 2024.
Eh bien, merci à vous. Votre 22e année à la tête de la mairie de Dijon, je dis 22 et non 23, puisque vous aviez été nommé ministre du Travail sous François Hollande en 2014. Vous aviez à cette occasion cédé votre fauteuil de maire à Alain Millau. On va revenir sur 2024 et faire aussi une petite rétrospective de 2023. Et nous ne serons pas seuls, puisque Fabrice Aubry, de la rédaction de Cassis, est avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour Charles, bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir, monsieur le maire. Votre dernière visite dans nos studios, on le disait ensemble il y a quelques minutes, c'était en janvier 2020, vous aviez un peu du mal à nous croire.
Oui.
C'était juste avant les élections municipales. Vous me voyez peut-être venir, mais je vais quand même vous poser la question. Les élections, c'est dans peu de temps, au final, dans deux ans.
Dans deux ans.
Est-ce que vous seriez candidat en 2026?
Non, non. Je...
Vous l'étiez en 2020, c'est pour ça que je vous pose
la
question.
Je l'ai été et j'ai été réélu quatre fois d'affilée. Je pense qu'il est temps que je passe la main. Et donc, je souhaite de tout cœur que Nathalie Kenders me succède.
Donc c'est sûr et certain, vous ne serez pas du nouveau candidat en 2026. Et est-ce qu'on peut le dire? Alors, c'est pas encore officiel, mais Nathalie Kenders sera la candidate, en tout cas la candidate que vous soutiendrez en 2026.
En tous les cas, c'est le choix de la raison et du cœur.
De la raison et du cœur. Nathalie Kenders, elle est beaucoup sur le terrain depuis plusieurs années. D'ailleurs, en ce moment, c'est elle qui anime les réunions de quartier pour présenter le budget de 2024. C'était une volonté de votre part, vraiment, de la qu'elle soit en avant, qu'elle soit sur le terrain régulièrement.
Oui, oui, il est indispensable qu'elle connaisse parfaitement les dossiers budgétaires. En ce moment, elle présente, elle fait les réunions post-budget, puisqu'on a voté le budget au mois de décembre. Et je crois, d'abord, elle aime le contact des gens, c'est très important. C'est une élue de proximité et de qualité. Donc, elle se rôde, j'allais dire, et ça se passe très bien. Donc, j'ai aucun doute sur sa compétence.
Sa légitimité, sa compétence.
Oui, vous savez, il faut un peu plus que de la compétence. Il en faut, c'est indispensable, évidemment. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une certaine empathie envers les gens, accepter souvent... le dialogue, la discussion, des fois c'est un peu plus âpre, mais c'est ça la démocratie, et je crois qu'elle se prête bien au jeu.
Mmh. Mais en attendant 2026 et une éventuelle candidature de Nathalie Kenders, il y a certains élus d'opposition qui vous reprochent, vous, monsieur le maire, de ne pas être assez sur le terrain. C'est le cas de Laurent Bourguignat, justement, qui s'est étonné il y a 10 jours, d'ailleurs, dans un communiqué, de voir Nathalie Kenders animer ses réunions sur le budget. Pourquoi c'est Nathalie Kenders? Pourquoi c'est pas monsieur le maire? Pourquoi c'est pas François Rebsamen?
Parce que je l'ai décidé, d'abord. Deuxièmement, moi je suis au contraire, franchement, au contact des habitants. Je les vois tout le temps. Je vis normalement le plus possible. Moi je pourrais vous dire, par exemple, je vois jamais sur le marché le samedi matin Laurent Bourguignat. Je sais pas où il est.
Vous allez au marché, monsieur le maire?
Oui, dès que je peux, le samedi... il me faut un peu plus de temps que les autres parce que les gens viennent me parler. Donc, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle souvent mon épouse veut pas venir avec moi.
Ça prend trop de temps.
Je vis normalement, je fais mes courses ici, j'habite ici, je suis pas comme monsieur Bichot. Donc, moi, je suis très bien. J'ai fait des réunions, contrairement à ce que dit monsieur Bourguignat. Peut-être il a pas eu le temps d'y venir, mais j'ai fait une grande réunion pour présenter et le budget de la ville et le budget de la métropole à l'hôtel de ville. C'était salle des états, j'étais en train de chercher au mois de... mois de décembre.
Avant après, cette série de réunions. Là,
après, j'ai fait des réunions. Je suis aussi président de la métropole. Et cette année, j'ai décidé de privilégier les réunions et la présence et ma présence auprès des maires de la métropole. On s'est ainsi partagé le travail avec Nathalie Kenders. Mais c'est normal, elle est la première adjointe. Elle est là pour me remplacer. Vous savez que j'ai eu un cancer, j'étais gravement malade. Et elle m'a d'ailleurs suppléé fort bien pendant les mois où je n'étais pas là.
Entendu.
Fabrice, oui, juste avant de parler de 2023, on voulait aussi toucher un mot sur la situation nationale actuelle avec les agriculteurs.
Ouais, bien sûr, un mot sur l'actualité chaude, hein, monsieur le maire. Alors, sujet qui ne vous concerne pas directement, mais je suppose que vous avez votre avis.
J'ai été sénateur et je suis toujours de très près l'actualité de notre département.
Avec la crise des agriculteurs, l'autoroute A6 a été bloquée cette nuit, d'ailleurs, vous le savez.
La déviation sur Arnay...
Également.
Oui, j'ai suivi ça. J'ai eu le préfet qui suit ce dossier, bien évidemment, qui me tient au courant, informé de la situation, me parlant. Je demande quelle est la situation de l'élevage, non seulement en Côte d'Or, mais le problème le plus large, j'allais dire, en Bourgogne. Il m'a dit qu'il avait rencontré le président de régional,
des jeunes agriculteurs,
il les a tous rencontrés. Ici, mais pas qu'ici, en France, le problème, c'est que chaque situation est différente. Et ça, c'est une difficulté pour le gouvernement, pour traiter l'ensemble avec... Il y a des agriculteurs, et tant mieux, heureusement, qui s'en sortent très bien. Ce sont des gros, en général. Et souvent, ils aiment bien envoyer les petits devant, parce qu'il y a des petits agriculteurs qui ont beaucoup de mal à vivre. Et puis
là, justement, ce sont les petits, c'est la oui, base, comme oui, on a dit, hein. Un mouvement qui est parti de la base, d'ailleurs, qui n'est pas parti des syndicats.
Absolument,
c'est ça. Comme les gilets jaunes il y a 5 ans, d'ailleurs.
Absolument, ouais. Absolument. Oui, mais j'ai suivi ça très bien, l'appel de ces deux agriculteurs. Voilà, et la situation dans le sud-ouest n'est pas la même que celle ici. À une année, c'était plutôt les céréales qui avaient des problèmes, les céréaliers, c'est moins le cas maintenant, etc., etc. Donc, la difficulté pour le gouvernement, c'est d'apporter une réponse globale. Je crois qu'il y a, moi je vois ici deux problèmes. D'abord, il y a un problème sur l'installation des jeunes agriculteurs, parce que la région n'a pas été en situation de traiter les dossiers comme elle l'aurait dû. Et donc, il y a aujourd'hui 250, je crois à peu près, dossiers qui sont en retard. Certes, les intérêts sont payés, mais l'installation de ces jeunes agriculteurs, c'est quelque chose de vital si on veut le renouvellement, hein, bien sûr, de cette profession. On en a besoin. Et ils nous nourrissent quand même.
Faut dire les choses. Il y a un problème de renouvellement des générations. Certains jeunes ne veulent plus être agriculteurs.
Mais ceux qui veulent s'investir, eh bien, il y a des retards de traitement dans leur dossier d'installation. L'Europe a mis les crédits. On parle de l'Europe, on va en parler cette année. L'Europe a mis les crédits, mais ils ne sont pas distribués. Donc, l'État a repris en gestion une partie des dossiers avec la région. Ça, c'est un des sujets majeurs. Il y a eu une manifestation violente sur Dijon devant le conseil régional à cause de ça. Et puis le deuxième sujet qui touche l'agriculture, mais qui est, je crois, plus général. Je veux pas faire du populisme à travers mes propos, mais on a vraiment une suradministration sur certains secteurs. Et l'agriculture en est frappée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dispositions aujourd'hui administratives, réglementaires, que même s'ils perdent, dans les feuilles à remplir, etc. Et souvent ils sont seuls et ils n'arrivent pas à suivre ces tâches administratives qui sont de plus en plus lourdes. Donc il faut une simplification.
Ouais. Et vous soutenez les agriculteurs dans leur mouvement?
Pas dans la violence.
Pour l'instant,
pas non plus dans les blocages, parce que je pense que on peut pas empêcher un pays de vivre. J'entendais que l'A1 à l'entrée de Paris était bloqué ce matin. Faut imaginer tous les gens qui vont travailler et qui pourront pas aller à leur travail, qui sont dans des bouchons de kilomètres et de kilomètres, mais je comprends les difficultés qui s'expriment, je viens de le faire savoir d'ailleurs.
On le disait au début de cet entretien, on va parler de 2023, de 2024 aussi dans quelques instants, mais tout d'abord quelques mots sur 2023, les grands projets qui ont marqué l'année, et parmi eux il y en a un majeur. Si je vous dis quel plaisir d'être chez nous, ça vous rappelle quoi, François Rebsamen?
Ça me rappelle le départ de quelqu'un qui, avec une association, et puis qui est parti avec quelques millions dans l'association, d'ailleurs, le président de l'association, qui gérait le parc des expos Palais des Congrès.
Palais de Jean Bateau, je crois.
Oui, c'est vous qui venez de le dire. Mais, je parlais de cette association Congrès Expo, de ses membres du conseil d'administration, qui n'ont pas été, d'une correction absolue, j'essaie d'être mesuré, d'une correction absolue envers... le maire de Dijon, et quand je dis le maire, c'est pas ma personne, mais c'est plutôt la municipalité, puisque ils n'avaient pas daigné, pour ce qu'ils appelaient les 100 ans de la foire, inviter le maire de Dijon pour la première fois à inaugurer cette foire.
Et cette foire sous l'égide de Dijon-Bourgogne Events, c'est une réussite pour vous?
Oui, puisqu'on a retrouvé... la foire, c'est quelque chose tout à la fois de traditionnel, donc il faut garder cette tradition. C'est une grande fête populaire, donc il faut garder ça. Mais en même temps, il faut apporter de l'innovation, il faut apporter une réflexion plus collective. Donc c'est ce qu'on a fait cette année. Et là où on était retombé à 110 000, 115 000, 120 000, enfin je veux pas, les chiffres sont des tendances surtout, visiteurs, il y en a 160 000 cette année, avec un jour de moins.
Oui.
Donc il faut que cette foire qui était en chute retrouve un élan pour redevenir la grande foire qu'elle était. Je rappelle qu'elle date de 1923.
Je vais être un peu grossier, mais la foire, ça ne pue plus aujourd'hui.
mais vous savez,
juste pour rappeler, alors vous aviez dit la foire, ça pue. Je cite, il y a 3 ans.
Hein, la foire.
À l'époque,
ça sent
où la foire était gérée par Dijon Congrès Expo.
J'ai dit la foire, ça sent le graillon. Et j'ai dit ça pue le graillon. Mais j'ai pas dit ça pue.
Ça pue le graillon.
Ça pue le graillon. Et c'est vrai. Donc j'avais eu une discussion assez vive avec le président de l'époque en disant il faut aérer cette foire. Il faut aérer cette foire. Et il m'avait dit c'est à la charge du propriétaire. Et on avait eu des discussions.
Propriétaire la ville de Dijon.
Propriétaire la ville de Dijon. Et moi j'ai dit c'est à la charge du locataire. Voilà, c'est l'objet premier de notre différend. C'est il voulait faire par la ville des travaux, il y en a pour beaucoup d'argent, qui l'impactaient à la ville. Et moi, je considérais que c'était le devoir du locataire. On aurait pu aller en justice. D'ailleurs, il m'a mis en justice 2 fois. Il a perdu 2 fois. Hein. Donc, je rappelle ça. Voilà, maintenant, tournons la page. Moi, je vis pas dans le ressentiment. On est parti, alors... On a tourné la page 2023, la foire a été une réussite.
Vous disiez pendant la conférence de présentation de la foire 2023 qu'il y aurait encore des nouveautés pour 2024 à venir.
Oui, mais là on est au tout début de l'année, oui. Je me le réserve le droit de vous les annoncer.
On n'aura pas l'exclusivité.
Bien sûr, il faut. Oui, il y a des. Aujourd'hui, on voit bien que les gens ont pris conscience de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Il faut s'ouvrir à de nouvelles formes. J'allais dire d'innovation en matière écologique, voilà.
Charles, on va parler un petit peu de la sécurité intérieure, c'est ça?
Oui.
Sur Dijon, François Rebsamen, on a reçu ici au mois de décembre, ici même, Franck Robine, le préfet de Côte d'Or, que vous connaissez bien, préfet de Côte d'Or et préfet de Bourgogne-Franche-Comté. Avec lui, on a notamment évoqué le problème du trafic de drogue. Il y a eu des faits divers qui ont entaché l'image de la ville de Dijon récemment, vous le savez, avec oui, notamment une balle perdue qui a tué une personne dans le quartier Stalingrad, c'était à la fin du mois de novembre. Concernant ce trafic de drogue et concernant notamment les consommateurs, on écoute le préfet sur ce sujet.
Je vais être vraiment très direct, le consommateur, il a du sang sur les mains. Il faut dire les choses. Celui qui achète de la drogue a du sang sur les mains parce qu'il entretient le business très important qui se fait sur ses réseaux. Et effectivement, il y a des consommateurs, notamment lorsqu'ils se livrent, ce qui est très courant eux-mêmes au trafic, qui sont arrêtés. Sinon, la réponse au consommateur simple, mais je n'aime pas ce mot parce qu'encore une fois, je le répète, le consommateur a une responsabilité dans ces trafics. C'est l'amende forfaitaire délictuelle qui est inscrite au casier judiciaire.
Qu'est-ce que vous en pensez? Votre réaction, monsieur le maire?
Moi, je travaille très bien avec
vous êtes d'accord avec le préfet?
Avec le préfet, Franck Robine. Bon, là, il parlait du consommateur. C'est vrai que il y a un problème de consommateur.
S'il y a des dealers, c'est qu'il y a des consommateurs,
bien sûr,
c'est ce qu'il veut dire.
Bien sûr, et on peut le dire dans tous les pays de la Terre. On prend les États-Unis, voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un fléau qui se répand. C'est un fléau qui se répand, qui touche maintenant non seulement des grandes villes. Dijon, c'est la 15e ville française après Paris, c'est une moyenne grande ville, j'essaie d'être raisonnable, mais ça touche des villes tout à fait moyennes, des petites villes. Pensez que même, pourtant, question coup de gueule, il est plutôt là, Laurent Wauquiez a déclaré qu'il y avait des points de deal au cœur de sa petite ville, au Puy-en-Velay, on mesure que ça a gagné l'ensemble
ça gagne du terrain, mais à Dijon, les Grésilles, la Fontaine-Douche, le quartier Drapeau, le Petit Citeau, le quartier Greuze, n'avez pas l'impression que le trafic de drogue gagne du terrain à Dijon également?
Je crois que, et j'espère que ça va durer, que à Greuze, rue Maurice Ravel, c'est terminé, il n'y a plus de point de deal. Je crois, je vous dis les informations dont je dispose à cet instant.
Et qui se déplace, le trafic de drogue, se déplace d'un quartier à l'autre, malheureusement.
Oui, mais il faut arrêter ce que fait la police, il faut arrêter les dealers, et il faut non seulement démanteler les points de deal, mais il faut également condamner les dealers. Donc il faut que la loi permette aux policiers, et puis ensuite aux magistrats, de sanctionner, d'arrêter, d'emprisonner, moi je dis les choses clairement, d'emprisonner les dealers, ceux qui pourrissent la vie des gens.
Il y a trop de laxisme?
Non, il y a de la part de qui
comme de l'État.
Non, il y a pas trop de laxistes. D'abord, on manquait de policiers. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy avait réussi l'exploit de passer pour quelqu'un de sécuritaire et d'avoir supprimé 10 000 postes de policiers. Pour recréer 10 000 postes de policiers, c'est pas simple. Donc, on a maintenant, depuis que Gérald Darmanin est revenu, on a des renforts de policiers. Mais il faut que ça continue. Deuxièmement, il faut qu'on puisse condamner. C'est bien l'amende délictuelle forfaitaire.
Je l'ai plaidé
quand j'étais ministre auprès du président de la République de l'époque. C'est bien parce que ça évite de faire des procédures et des procédures pour rien. Je parle du consommateur qui a 3 grammes de cannabis dans sa poche. Eh bien, on lui fait une amende, il doit payer, c'est très bien. Mais ce qu'il faut, c'est arrêter. Il faut rassembler tout le monde, les douaniers qui font un travail formidable, qui arrêtent des sommes incroyables sur des tonnes, on peut dire.
Sur les ports français,
oui, notamment. Oui, sur les routes françaises.
Les ports, etc.
Sur les routes. Mmh. Il faut que on puisse rassembler sur un même lieu la police, les magistrats, le proc, le parquet, bien évidemment les douaniers dont je viens de parler, mais également, moi c'est ce que je crois, les finances publiques, car il faut s'attaquer à la drogue, il faut s'attaquer au portefeuille des dealers. Et donc là-dessus, il faudrait que les finances publiques puissent tracer, suivre, et que les policiers en soient informés, ceux qui ont des grosses voitures, qui louent, je sais pas où, qui font venir de Pologne, on me dit, etc., etc. Donc, voyez, il faut. C'est pour ça que j'avais demandé au président de la République, j'ai pas eu de réponse, il avait d'autres sujets, j'ai vu, mais je lui avais demandé de décréter que c'était année de lutte contre la drogue, parce que
2024 soit une année de lutte contre
la drogue. Oui, il faudrait que ça soit reconnu comme année nationale de lutte contre la drogue en France. Parce que je pense que à Paris, on ne mesure pas ce qui se passe dans notre pays. Voilà, l'entre-soi parisien, parce qu'on sait qu'il existe, hein, l'entre-soi parisien fait en sorte que on ne mesure pas l'ampleur du phénomène.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que l'État a perdu face au trafic de drogue? Je posais cette question au préfet d'ailleurs au mois de décembre.
Non, l'État n'a pas perdu. L'État.
Parce qu'on voit que le trafic de drogue gagne du terrain, il y a de plus en plus, il y a des consommateurs, oui, il y a des arrestations, certes, mais ça continue, le trafic de drogue gagne du terrain, les gens se disent, l'État a perdu.
Mais non, c'est international de toute façon.
Oui, bien sûr.
Oui, non, mais je voudrais quand même le dire, c'est d'abord.
Ils sont des machines très très bien rodées, les réseaux sont très bien ficelés.
Avec des narcotrafiquants qui sont aujourd'hui très riches, et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi les frapper au portefeuille, partout, il faut une action internationale. C'est pas facile, ils ont des moyens. J'ai appris là maintenant qu'ils utilisaient même des sous-marins, vous voyez. Donc ça donne une idée de la puissance de ces narcotrafiquants. Et tout ça ruisselle, malheureusement, et pénètre en France par tous moyens. Et on le retrouve dans nos villes. Et des gamins de 16 ans, aujourd'hui, sont assis sur le trottoir, gagnent entre 50 et 80 ou 100 euros la journée, juste pour crier quand ils voient arriver les forces de police. Et on n'a pas les moyens de les arrêter. Et la procédure pénale, s'agissant du trafic de drogue, est trop compliquée, trop complexe. Les policiers, ils en peuvent plus. Et puis, les magistrats, ils devraient être, j'allais dire, plus encore sur le terrain pour voir vraiment ce qui s'y passe.
Dernière question pour avant
de
passer.
C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Mais avant de passer au sujet suivant, François Rapsamen, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que ces trafics de drogue, ils se développent dans les quartiers où on a construit des logements sociaux? La Fontaine Douche, les Grésilles, le quartier Drapeau, etc.
Bien sûr,
il y a des gens qui disent ça, sont pas, et pas que des gens de droite et d'extrême droite, hein. Là où le trafic de drogue se développe, ce sont dans les secteurs où il y a des logements sociaux, quartiers populaires. Je dis pas ça, évidemment, pour stigmatiser tous les habitants de ces quartiers, hein.
Non, d'ailleurs, ceux qui achètent, en général, ils viennent des beaux quartiers. Donc, vous voyez, il y en a partout. Voilà, c'est tout. Il y en a partout.
C'est que la responsabilité.
Sûrement pas stigmatiser des quartiers où les gens, les premiers qui sont pénalisés par le trafic de drogue, ce sont ceux qui vivent dans ces quartiers. Et donc, au contraire, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent le mieux possible. De la même manière, les petits délinquants, pas toujours la drogue, les petits délinquants qui respectent pas le code de la route, qui, au moment des fêtes nationales, de la fête nationale, sortent des mortiers, tirent sur la police. Tout ça doit cesser. Et je pense qu'il y a en France une dizaine de milliers, une quinzaine de milliers de jeunes qui doivent être mis hors d'état de nuire.
Et la police municipale travaille avec...
C'est-à-dire mis dans des camps, des centres de rééducation fermés. Parce que ils n'ont aucune éducation.
Monsieur le maire, un dernier sujet de 2023 sur lequel on souhaitait revenir en quelques mots, hein, puisqu'il faudra également qu'on parle de 2024. Le nouveau plan de circulation du réseau Divia et ce nouveau pôle de correspondance devant la Cité de la Gastronomie, c'est une réussite pour vous?
Total.
Oui.
Total. D'ailleurs, Divia... pourra, et peut-être je le ferai à la prochaine réunion de la métropole, présenter les chiffres qui sont en forte hausse de fréquentation. Oui. Donc, s'il y a une forte hausse de fréquentation avec le nouveau réseau, c'est qu'il fonctionne bien.
Il y a des gens qui s'embêtent quand même de passer par la cité de la gastronomie, que les lignes de bus aient été modifiées.
Mais il y en a plus qui sont contents puisqu'il y a plus de voyageurs. Donc, il y a toujours des gens que, on peut jamais faire plaisir à 100% de personnes. Mais moi, je le sais, j'ai changé.
Il y a eu des ajustements quand même qui ont été faits dans le temps de transport.
Notamment début janvier, oui.
Bah oui, on avait pris en compte cela.
Il y avait le boulevard des Bourroches.
Manifeste au Bourroches. Les gens étaient obligés de faire à pied tout le boulevard des Bourroches pour se rendre à l'Intermarché qui est à l'angle de la...
C'était aussi un peu compliqué pour certains commerces.
L'avenue Jean Jaurès, donc c'est réglé, j'avais dit ça se réglera, c'est réglé, ça fonctionne autrement, et partout sur le réseau, notamment sur les bus qui ont gagné de la fréquentation, il y a même une liane qui est aujourd'hui presque plus utilisée que que le tram.
Et le tram, justement, il sera étendu prochainement. Vous savez déjà dans quelle direction? Le maire de Chenôve, Thierry Falconet, nous a dit à ce micro, donc c'était le maire de Chenôve qui parlait, bien sûr, et pas le vice-président Dijon Métropole, il souhaiterait que le tram soit étendu au sud.
Oui, oui, c'est normal. Le maire de Chenôve souhaiterait que le tram soit étendu au sud. Le maire de Chevigny,
c'est ce qu'il disait, oui. C'est ce qu'il disait à ce micro.
Le maire de Talence, ça monte à l'ouest.
Le maire de Dijon, il en pense quoi?
Le maire de Dijon, il
est
au centre.
Président de la métropole,
oui, bien sûr.
Il est au centre, le maire de Dijon. Mais, donc ça, j'en parlerai avec ma première adjointe. Mais, le but, c'est pas de faire plaisir aux uns et aux autres.
C'est ce que disait aussi Thierry Falconet, oui.
C'est très bien qu'ils aient, des envies, je comprends, pour développer, leur territoire, je vois très bien, mais l'étude, elle est objective. C'est comme ça que ça s'est fait la première fois. Les mêmes demandes, imaginez qu'il n'y avait pas de réseau de tram, donc la même demande existait, et finalement, on a trouvé, avec deux lignes, l'organisation qui permettait, sur des bases statistiques, c'est-à-dire de rentabilité, il faut desservir le plus de monde possible. Donc, l'étude va nous dire où il y aura le plus de fréquentation, et on fera d'abord où il y a le plus de fréquentation. Mmh. Vous savez, la réussite d'un réseau de transport, c'est un peu comme la réussite, on pourrait dire, du chauffage urbain.
D'accord.
Faut de la densité. Il faut de la densité parce que quand il n'y a pas de densité, bien, ça coûte très cher. Ça coûte très cher et ça fonctionne pas. Donc, on va pas desservir 4 kilomètres comme ça où il n'y a personne. C'est arrivé au réseau, par exemple, c'était une volonté qui était normale du maire de Besançon de l'époque de servir Planoise. Pour atteindre Planoise, il traverse 5 kilomètres ou 4 kilomètres de route où il n'y a personne.
Oui, Planoise, c'est un quartier qui est assez éloigné du centre-ville de Besançon.
Bien sûr, je dis c'était tout à fait louable, mais n'empêche que après, pour rendre rentable cette desserte, c'est compliqué parce que y a des kilomètres où il n'y a personne.
Puis un tramway, ça coûte cher.
Ça a coûté depuis les cours montés, malheureusement, puisqu'il y a eu de l'inflation, etc. Mais ça coûtait 20 millions d'euros le kilomètre. Voilà.
On passe désormais au projet pour 2024. À Dijon, ils sont nombreux, vous le savez. Et la bonne nouvelle, c'est que les Dijonnaises et Dijonnais seront justement plus nombreux, hein, puisque Dijon gagne des habitants, un peu plus de 160 000 en 2021, selon le dernier barème de l'INSEE. Vous avez communiqué votre satisfaction suite à cette publication.
Oui, parce que la région perd des habitants, la Côte d'Or perdrait des habitants sans la métropole, et donc... je peux dire que la métropole de Dijon, par son développement, permet le développement du département de la Côte d'Or et de la région, avec la ville de Besançon également, qui gagne.
Vous l'avez dit, oui, tout à fait.
C'est bien, ils se sont rétablis à Besançon. Moi, j'en suis très très heureux pour la maire de Besançon. Mais nous, à Dijon, maintenant, on progresse raisonnablement parce qu'on construit des logements.
Oui.
Parce que, vous voyez, ce qui est intéressant dans les chiffres de l'augmentation de la population, c'est qu'il y a une baisse, tout le monde le sait au niveau national maintenant, il y a une baisse du solde naturel. Le solde naturel, c'est la différence entre les décès et les naissances.
Et donc, les gens font moins d'enfants.
Il y a moins d'enfants. Il y a moins d'enfants.
C'est le problème.
Il y a moins d'enfants par rapport aux décès. Entendons-nous bien. Je ne porte pas jugement de valeur sur le nombre d'enfants, mais à Dijon, l'excès du solde naturel, il atteignait 850 personne en plus sur le sol naturel il y a encore 5-6 ans. Là, c'est 400. 380, 400. Donc, voilà la chute. Donc, à ce train-là, on perd des habitants. Pas encore à Dijon, mais on peut en perdre. Heureusement, par contre, le solde migratoire qui mesure l'attractivité de la ville augmente. Et le solde migratoire, pour dire les choses clairement aux gens, parce que tout le monde ne suit pas tout ça exactement, c'est la différence entre les gens qui partent et les gens qui arrivent. Donc, il y a maintenant autant de gens en surplus, c'est-à-dire qui arrive, il y a 380, c'est-à-dire 400, si j'arrondis, il y a 400 personnes de plus chaque année qui viennent habiter à Dijon par rapport à ceux qui partent. Et ça, c'est exactement le même nombre que Pouillem près, c'est exactement le même nombre que le solde naturel. Donc il y a en moyenne chaque année 800 personnes en plus sur la ville. Et donc voilà.
La ville est attractive.
Donc la ville est attractive, elle l'est devenue parce que c'est la seule ville vraiment en France, Bourgogne-Franche-Comté s'entend, hein, bien évidemment, il y a des villes qui sont dans le sud de la France qui gagnent beaucoup d'habitants, mais bon, celle-là, elle gagne des habitants, c'est parce qu'elle est attractive, c'est parce qu'il y a la Cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est parce qu'on construit des logements, on manque de logements, il faut en construire encore plus, et il faut densifier la ville, voilà.
Et pour desservir cette ville, il faut notamment un bon réseau ferré. On va en parler, Fabrice, du train.
Ouais, justement, pour qu'il y ait de l'attractivité, il faut que, comme le disait Charles, que la ville soit bien desservie. Bon, on n'a pas l'avion à Dijon. Enfin, on a un petit aéroport, mais qui sert surtout au tourisme d'affaires. Mais la ville est quand même bien desservie par l'autoroute et par le TGV. Et justement, ces derniers jours, il y a une polémique qui est née avec un article du Parisien publié mardi qui dit que la ligne TGV Dijon-Paris serait menacée. Alors vous avez réagi justement.
Oui, c'est pas la ligne.
Info ou intox.
Bah, d'abord, je trouvais que la SNCF n'avait que mollement réagi.
Ouais.
À mes propos, puisque j'ai fait un article dans le journal Le Parisien, accusant entre guillemets la SNCF, non pas de disparition de la ligne, évidemment, mais l'idée de la SNCF sous-jacente, c'est de supprimer un certain nombre de dessertes dans des villes comme Dijon, Reims, ça tombe mal parce que Madame Vautrin vient d'être nommée ministre, Dijon, Reims, Grenoble, Metz, etc., en disant
faut réduire les fréquences.
Il y a beaucoup de dessertes, nous on a 14 allers-retours Dijon-Paris.
Et ils sont tous pleins,
par jour. Oui, ils sont pleins, bien sûr.
Tous les trains sont.
Tous ceux qui veulent aller à Paris le savent, faut réserver maintenant les billets 10 jours, 15 jours à l'avance, vous vous rendez compte. Donc c'est très bien pour la SNCF, d'ailleurs.
Aux heures de pointe. Aux heures de
battu ses records de voyageurs, oui, bien sûr. Aux heures de pointe. Si on met trois trains qui se suivent en une demi-heure, le troisième, il sera vide, ça c'est sûr. Donc il faut aussi que la SNCF fasse balaye devant sa porte. Hein. Donc l'idée, c'est de dire certaines dessertes peuvent être supprimées, et puis finalement, non, mais à ce moment-là, ça sera aux collectivités de payer. C'était ça qu'il y a derrière la tête. Non pas de supprimer, de dire... Et parce qu'ils disent, la SNCF dit, vous savez, ils appellent ça les navetteurs. Les navetteurs sont les gens qui font... qui prennent le train le matin et le soir.
Ouais, qui vont, les gens qui habitent à Dijon, qui vont travailler à Paris et qui font leur train dans la journée.
Ou à Reims, Tours, voilà. ou au Mans, c'est 1h10.
Pour les trajets où il y a une heure et demie de trajet pour aller à Paris.
Voilà. Non, mais je le dis, d'abord, c'est plus une heure et demie, hein, c'est maintenant, ça dépasse régulièrement d'avoir beaucoup de travaux qu'il faut faire.
En TGV, c'est 1h40, normalement, si tout se passe bien.
1h40 quand il y a l'arrêt à Montbard, sinon 1h37 quand il n'y a pas l'arrêt à Montbard. Donc, je suis ça de près, donc c'est même pas envisageable que nous soyons taxés pour ça. Par contre, il faut rétablir une ligne.
J'allais vous en parler.
C'est la deuxième question.
Mulhouse, la ligne Mulhouse, Besançon, Dijon, Roissy,
Montbard,
Marne-la-Vallée, Roissy, Charles de Gaulle, Lille. Voilà.
Voilà.
Donc cette ligne, elle est plus desservie depuis 2020.
Cette ligne a été suspendue pendant la période de Covid.
Et on espère qu'elle ne soit pas qu'elle n'ait pas été supprimée.
Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai rencontré bien sûr Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, j'ai rencontré le directeur général, parce que j'ai des directeurs généraux partout à la SNCF, le directeur général de SNCF Voyageurs branche TGV, parce qu'il y a plusieurs branches, il y a beaucoup de directeurs généraux, il y a beaucoup de branches.
C'est une grande entreprise.
Entreprise assez lourde, me permet de le dire, dans sa propre structure administrative, hein, assez lourde. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette lourdeur fait que ils ont accepté de me faire une proposition. Personne ne le sait vraiment, mais Monsieur Farandou m'a fait une proposition. Et il m'a proposé de décrocher un TGV double, deux TGV accrochés, qui partent le matin de Lille pour aller à Montpellier. Il y en a 14 par jour qui font ça. Il y a 14 TGV doubles qui partent chaque matin de Lille, enfin tout au long de la journée, et qui vont à Montpellier. Et il m'a proposé d'en décrocher un aller-retour, bien évidemment, d'en décrocher un à Orly, à Roissy, de décrocher un des deux TGV à Roissy, et au lieu que ce TGV qui aurait été décroché continue sur Montpellier, vienne sur Dijon, Besançon.
Okay. Mulhouse, ça résoudrait le problème.
Ça résoudrait notre problème. Mais le problème, c'est qu'il m'a dit, tout ça, ça va vous coûter de l'argent, il va falloir payer. Mmh. J'ai dit, ah bon, pourquoi, combien, comment? Et il m'a dit, ça coûte 12 millions d'euros.
J'ai dit, la ville de Dijon qui paierait 12 millions d'euros par an?
J'ai dit, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Donc, on a pris d'abord un bureau d'études pour estimer ce qu'était cela. On est déjà tout de suite revenu à 5 millions et demi, vous voyez. Pour eux, ils mettent des multiplicateurs, ça fait déjà multiplié par deux.
Ça a fortement baissé tout de suite.
Et en plus, ils nous font payer l'achat de matériel neuf, l'amortissement, alors que c'est un TGV qui existe déjà. Donc je conteste fortement cette étude. Je l'ai dit au ministre du Transport, Clément Beaune, qui était concerné. Je l'ai dit à Monsieur Béchu, Christophe Béchu, qui est un ami, parce que c'est l'ancien maire d'Angers, qui est tout à fait conscient de ça, qui m'a dit c'est intolérable, je vais venir à Dijon avec Monsieur Farandou. C'est une annonce que je vous fais. Maintenant, j'attends qu'ils viennent pour qu'on puisse reprendre le débat. Je ne lâcherai pas. Et vous savez, même le PDG de Toyota à Lille, enfin à Valenciennes, il a signé la pétition. Ça prouve qu'il y a des besoins d'échange pour désenclaver notre région, qui perd des habitants parce qu'elle est enclavée. La présidente de région a du mal à comprendre ça. On n'est plus desservi, on ne dessert plus le nord de l'Europe. Lille, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est l'Europe. Lille, c'est Londres. On ne dessert plus non plus. Et puis, on dessert plus l'ouest de la France, parce qu'à Marne-la-Vallée, il y a des dessertes qui nous permettent de descendre sur Toulouse, Bordeaux, etc. Donc, ou Nantes. Et donc, il est indispensable pour nous de rétablir ça. On a été écolo, il y a plus d'aéroport grand public à Dijon. Et en plus, la SNCF veut pas jouer le jeu. Alors là, ça va pas.
Monsieur le maire, on va parler d'un dernier sujet en quelques mots, hein, puisque nous savons que vous êtes attendu par la suite. L'aspect sportif, Fabrice, il est très important en 2024 pour Dijon. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer.
Bon, évidemment, il y aura les Jeux Olympiques. On en parle tout le temps. Les Jeux Olympiques de Paris. On sait que le Krebs va jouer son rôle d'ailleurs dans le cadre de ces JO. Et puis, évidemment, le passage du Tour de France.
Oui, bien sûr.
Nathalie Kinder, ça a joué un rôle important d'ailleurs pour faire venir le Tour de France à Dijon. Hein.
Ah bah, je disais hier au président du département. On a travaillé hier dans la journée, je lui disais que les choses soient claires. Vous voyez, moi j'aime bien quand les choses sont claires. J'ai toujours été comme ça. On dit, ah ben il est un peu cash. Oui, je suis cash, c'est comme ça. Donc, si le Tour de France est 3 jours en Côte d'Or, c'est grâce au président du département. Que les choses soient claires. S'il y a une étape à Dijon, c'est grâce à Nathalie Kinders. Parce que je veux pas rappeler que dit le président du département, le Tour ne s'arrêtera pas à Dijon en 2024. Donc, Madame Kinders a été voir Monsieur Prudhomme, elle a obtenu qu'il y ait une étape à Dijon. Mais François Sauvadet a obtenu qu'il y ait 3 jours le Tour à Dijon.
Bon, bah, les deux ont gagné.
Donc, c'est tout bénéf, excusez-moi de l'expression, je parle pour tout le monde, c'est bénéfice pour tout le monde. Bravo pour le département, bravo pour Nathalie Kinders, bravo pour la ville de Dijon, pour les sportifs d'ici, et puis encore plus bravo aux uns et aux autres, parce que finalement, qui est-ce qui va en profiter? La ville de Dijon et la métropole. Les hôtels, ils sont déjà
bien
pleins, ils sont déjà réservés. Donc
tout le secteur économique va être gagnant.
Donc je peux vous assurer que le Tour de France, il passera en réalité 3 jours à Dijon.
Ah, 3 jours à Dijon, sauf la troisième, mais l'étape ce mur en Auxois, qu'on l'on met les deux églises, on sera moins à Dijon quand même là.
Ils nous
permettent.
Ben, la nuit, ils l'auront passé à Dijon. Quand ils feront le départ de ce mur.
Alors, peut-être certains d'entre eux, certaines équipes vont dormir du côté de ce mur, je pense.
Où?
Ah bah il y a peut-être des hôtels près de ce mur en Auxois.
Travaillez votre carte de l'hôtellerie quand vous saurez
une partie, pas tous.
Quand vous saurez ce qu'il faut comme hôtel pour loger le Tour de France, vous verrez que ils seront tous essentiellement à Dijon.
Ouais.
Fabrice, peut-être un dernier mot aussi sur l'aspect sportif.
Oui, sur les championnats du monde de pétanque.
Oui, c'est exactement ça.
Ça aussi, voilà, bon, c'est moins médiatisé, mais bon.
Il faut finir sur ça.
Voilà. Ça viendra, c'est en mois de décembre.
Vous jouez à la pétanque, monsieur le maire, ou pas?
Avec Nathalie Kinders.
C'est vrai.
Bonne doublette. C'est vrai. Vous pouvez le demander. Monsieur Bourguignon nous a pas vu, mais c'est parce qu'il sort pas assez dans Dijon. Vous savez, à côté du parc qui a été fait pour le skate.
Oui, à côté du stade Gaston Gérard.
Anciennement, ce qu'on appelait les terrains d'hélicoptère sous le parc des sports, il y a un terrain de pétanque. Eh bien, cet été, après la journée de travail, vers 21h, avec Nathalie Kinders, on a été défier les pros, entre guillemets, très bons amateurs qui sont là. Bon, on n'en a gagné qu'une de partie, mais on l'a gagné. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le maire François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, d'être venu nous rendre visite dans le studio de Cassis. Tous nos vœux de réussite pour 2024. Merci beaucoup.
Merci à vous. Je pense que l'année sera une bonne année pour Dijon, bonne année pour la métropole, parce qu'en plus de tout ce qu'on a dit dans le domaine sportif, dans la lutte contre la drogue, c'est très important, Il va y avoir beaucoup de réunions internationales. Il va y avoir les journées nationales de l'hydrogène qui auront lieu au mois de juin.
L'inauguration du siège de l'OIV également.
Le siège de l'OIV, mais ça va être un élément, j'allais dire, mondial.
Oui.
Les gens n'ont pas encore compris.
Dijon, capitale mondiale du vin.
Ben voilà, c'est l'ONU du vin. C'est à Dijon.
Dijon dépasse Bordeaux.
C'est 50 pays. Ils sont battus pour l'avoir, mais ils n'ont pas gagné. C'est Dijon qui a gagné. C'est 50 pays. C'est 50 ministres qui vont venir, des chefs d'État et 1500 experts internationaux qui vont passer une semaine à Dijon et qui vont prendre le logement à Dijon.
Merci monsieur le maire, merci Fabrice.
Merci Charles.
À très bientôt.
Merci, monsieur le maire. Merci à
bonne
vous.
Journée.
Merci.